Il y a cette image hyper viscérale qui s'impose souvent quand on traverse un échec vraiment cuisant ou un bouleversement total.
Ouais, le genre de moment où on enterre tous ses repères, quoi.
C'est ça. C'est l'impression tenace d'être devenu un simple bout de bois mort.
Ah oui, complètement coupé de ses racines.
Voilà, jeté sur le bas-côté, devenu, inutile. On regarde les débris d'une situation et la conclusion semble évidente. L'histoire s'arrête là. C'est une punition finale, le point de non-retour.
Et c'est vrai que c'est une sensation universelle.
Bah oui. Et ben c'est exactement le point de départ de l'exploration approfondie d'aujourd'hui. Les sources qu'on va décortiquer reposent sur les notes de cours fascinantes du docteur John Oswalt.
Tout à fait. Et ces notes, elles analysent en profondeur un texte vieux d'environ 2700 ans, les chapitres 42 et 43 du livre antique d'Ésaïe.
Et notre mission, aujourd'hui, c'est vraiment de plonger dans ces archives millénaires. Pas pour un cours d'histoire poussiéreux, hein?
Ah non, surtout pas.
Le but, c'est d'en extraire des concepts d'une modernité absolue. On va explorer la manière dont ce texte redéfinit l'espoir face au chaos, la quête de sens, et surtout, on va découvrir une vision de la vraie justice qui pulvérise nos définitions habituelles.
C'est un programme assez chargé, du coup.
Grave. Alors, pour poser les bases, que se passe-t-il si ce qui ressemble à une destruction totale, à un exil définitif, est en fait conçu pour être tout autre chose?
Pour comprendre l'ampleur de cette question, il faut vraiment se projeter dans la situation historique que le texte aborde, c'est-à-dire l'exil babylonien.
D'accord.
Parce que il ne s'agit pas juste d'un simple déplacement de population. Pour le peuple d'Israël à cette époque, perdre sa terre, voir sa capitale détruite, l'être déporté à Babylone, c'était l'effondrement de tout leur système de croyances.
C'est un peu la fin du monde pour eux.
Exactement. La conclusion logique dans le monde antique, c'était que leur dieu les avait abandonnés, ou pire, qu'ils s'étaient fait complètement écraser par les divinités babyloniennes. L'exil incarnait vraiment le rejet total.
C'est la réaction binaire par excellence, quoi. Soit on gagne et on est béni, soit on perd et on est maudit.
C'est ça. Mais l'argumentaire central du texte d'Ésaïe, que le docteur Oswalt met en lumière, avance une thèse radicalement différente.
Ah ouais?
Ouais. Le but de cette épreuve colossale, c'était pas l'anéantissement, c'était le raffinement. Le texte martèle que le jugement n'est jamais, au grand jamais, le dernier mot.
Bon, on va décortiquer tout ça parce que l'idée du raffinement par la destruction de tout ce qu'on connaît, ça pique un peu, faut l'avouer.
C'est sûr, c'est contre-intuitif.
Mais imaginons un entraîneur sportif de très haut niveau qui prépare un athlète pour les Jeux Olympiques.
D'accord, je vois l'image.
Lors d'une séance particulièrement brutale, l'entraîneur pousse les muscles de l'athlète jusqu'à la micro-déchirure. Sur le moment, biologiquement parlant, c'est une agression, le muscle est endommagé.
C'est clair.
Mais l'intention de l'entraîneur n'est absolument pas de mutiler son athlète. Le but, c'est de créer les conditions pour que la fibre musculaire se reconstruise de manière beaucoup plus dense et résistante. La douleur devient l'instrument d'une transformation, pas d'une punition.
Ah, c'est une excellente façon de le visualiser. D'ailleurs, les notes d'Oswald font vraiment écho à cette idée à travers une scène fondatrice du livre d'Ésaïe.
Laquelle ?
Celle de sa vision dans le temple. C'est une scène super théâtrale où un ange s'approche du prophète pour le purifier.
Ok.
Mais attention, l'ange vient pas avec une plume délicate ou une petite coupe d'eau fraîche. Hein. Il prend un charbon ardent, rougeoyant, directement sur l'autel et l'applique sur la bouche d'Ésaïe.
Attends une seconde. Un charbon ardent directement sur le visage, ça semble quand même beaucoup plus à de la torture qu'un acte de grâce, histoire.
Ouais, je comprends.
Comment Oswalt justifie-t-il cette violence dans un texte censé parler de restauration ?
C'est toute la subtilité de l'analyse, en fait. Oswalt souligne qu'Ésaïe n'a évidemment pas soupiré d'aise en disant « Ah, merci, ça fait un bien fou ».
Tu m'étonnes.
Il a très probablement hurlé de douleur. La brûlure était super réelle. Mais cette brûlure, c'était le seul moyen de cautériser et de purifier la source du problème plutôt que de simplement mettre un pansement dessus.
Donc le mal pour un plus grand bien, en gros.
Voilà. Et si on relie ça au contexte global, ce qui est fondamental ici, c'est l'intention derrière le geste. Le texte insiste sur le fait que la démarche est initiée par la grâce.
C'est-à-dire ?
Dieu ne dit pas aux exilés « Assieds-toi, tais-toi et regarde-moi réparer tes bêtises ». Ils ne s'installent pas non plus dans un fauteuil pour juger leurs efforts pathétiques. Le message récurrent, c'est vraiment « Ne crains pas, je t'aiderai ».
Ok, donc c'est une dynamique de collaboration initiée par la grâce et non par la performance des exilés. D'accord.
Exactement.
Mais parce qu'il y a un... Mais si on suit cette logique, il y a une énorme dissonance cognitive qui apparaît.
Laquelle ?
Si ce Dieu veut simplement purifier son peuple par amour, L'exilé babylonien va forcément se dire « Attends, si mon Dieu est si puissant et qu'il veut mon bien, pourquoi je suis esclave à 1000 km de chez moi ?» Les idoles de Babylone sont-elles plus fortes ?
Ipan, c'est précisément cette dissonance qui force le texte à basculer dans une scène surréaliste.
Raconte.
Oswald note que les chapitres d'Ésaïe se transforment soudainement en un véritable tribunal cosmique. Dieu convoque littéralement les idoles des nations à la barre des témoins pour vérifier leurs compétences divines.
Ah oui, c'est là que la rhétorique du texte devient vraiment intéressante. Le défi lancé aux idoles dans ce tribunal est super redoutable.
Ouais, il n'y va pas par quatre chemins.
Il leur dit ce truc du genre « Prouvez que vous êtes des dieux !» C'est simple, prédisez l'avenir de manière infaillible ou bien expliquez-nous l'origine de la vie.
C'est un sacré test.
Et le résultat ? Un silence assourdissant, zéro réponse.
Aucune réponse, ouais, car selon l'analyse de la source, ces idoles ne sont que des personnifications des forces cosmiques. Le soleil, la pluie, les cycles des saisons, tout ça.
D'accord.
Si on y réfléchit, le mécanisme d'une idole est purement utilitariste. Oswald explique que si on vénère une divinité de la pluie, par exemple, le but, c'est absolument pas de nouer une relation intime avec elle.
Ah non, on s'en fiche de ça.
Grave. Le but, c'est d'exécuter la danse ou le sacrifice exact pour forcer cette force à faire pleuvoir sur les récoltes. C'est une transaction mathématique au sein d'un système fermé.
Et c'est fou parce que Oswald fait d'ailleurs un parallèle assez bluffant avec notre époque moderne.
Ah oui, sur la vision du monde réduit.
Ouais, dans le monde païen antique, la croyance générale, c'était que la vie, l'univers, tout ça, ça venait de nulle part et ça n'allait nulle part. C'était juste une immense roue de hamster.
Un cycle cosmique infini sans but ultime.
Voilà. Et la seule philosophie logique qui découle de cette vision, c'est « puisqu'il n'y a pas de destination, essayons de profiter du voyage en maximisant notre confort et notre sécurité ».
C'est très pragmatique.
Et franchement, si on écoute les conversations dans la rue aujourd'hui, c'est une philosophie qui est toujours largement majoritaire, non ?
C'est un constat super juste. Une entité, qu'elle soit une idole de pierre ou un humain moderne, si elle est enfermée à l'intérieur de ce système clos, bah, elle est incapable d'en expliquer le point de départ ou le point d'arrivée.
Logique.
Et l'argumentaire d'Ésaïe affirme que seul un créateur situé à l'extérieur de ce cercle peut le faire. Il est le seul à pouvoir voir et annoncer la fin depuis le commencement.
Ouais, je veux bien. Mais là encore, on pourrait faire une objection sérieuse.
Vas-y, je t'écoute.
Les devins, les astrologues ou même les algorithmes prédictifs aujourd'hui, ils font des prédictions en permanence. La source mentionne même des astrologues du XXe siècle, comme Jean Dixon.
C'est vrai.
Alors, en quoi la prédiction de ce texte est-elle si spéciale ? Le secret des voyants, on le sait, c'est la marge d'erreur, le fameux fudge factor.
Ah, la prédiction floue.
Ouais, on fait une prédiction tellement floue ou tellement vaste qu'elle finira forcément par correspondre à un événement quelconque.
Et c'est justement là que l'argumentation du docteur Oswald prend tout son sens. Il souligne l'absence totale de marge d'erreur dans le texte d'Ésaïe. La prophétie annonce spécifiquement que l'exil punitif aura lieu à Babylone.
Et alors ? Babylone, c'était connu, non ?
Bah, il faut bien comprendre le contexte géopolitique de l'époque pour réaliser à quel point c'est absurde comme prédiction. Ces textes sont datés d'environ 701 avant notre ère.
Ok.
À ce moment-là, la superpuissance mondiale qui terrifiait tout le monde, c'était l'Empire assyrien. Babylone, c'était qu'une province rebelle, une petite cité sans envergure, complètement écrasée par la Syrie.
Ah oui, d'accord, je vois le problème.
Prédire que la Syrie allait échouer, mais qu'une ville insignifiante comme Babylone allait, des décennies plus tard, devenir l'instrument de l'exil, c'est d'une précision déconcertante.
En gros, c'est comme prédire aujourd'hui qu'une petite start-up inconnue qui bricole dans un garage va racheter et démanteler les plus grandes nations du monde d'ici 50 ans.
C'est exactement ça.
Mais l'audace du texte va encore plus loin. Non seulement le lieu improbable de l'exil est nommé, mais le nom de celui qui permettra le retour est carrément lâché.
Cyrus.
Cyrus, ouais. Un roi perse. Prédire qu'un peuple va survivre à un siècle d'exil sans se dissoudre culturellement et qu'il sera sauvé par un monarque étranger dont on donne le nom avant même sa naissance, c'est stratosphérique.
Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça nous amène à un point crucial du débat académique.
Lequel ?
Cette précision chirurgicale est tellement troublante qu'elle a donné naissance à ce qu'on appelle la théorie du second Ésaïe.
Ah, la fameuse théorie.
Ouais. Beaucoup de spécialistes modernes, qui sont super mal à l'aise avec l'idée d'une véritable prophétie surnaturelle, affirment que ces chapitres spécifiques ont dû être écrits bien plus tard, en fait, après que Cyrus ait conquis Babylone.
Et l'idée, c'est qu'un auteur tardif, a antidaté le texte pour lui donner l'apparence d'une prédiction, c'est ça?
C'est ça.
Ce qui semble être une hypothèse historique plutôt rationnelle au final. C'est quand même plus facile d'écrire l'histoire quand on connaît déjà la fin.
C'est rationnel en apparence, oui. Mais Oswalt déconstruit cet argument en utilisant la propre logique interne du texte. Souviens-toi du tribunal cosmique dont on parlait.
Ouais, le défi aux idoles.
Voilà. L'intégralité du défi lancé aux idoles repose sur l'affirmation « Moi, je peux prédire des événements historiques précis bien avant qu'ils n'arrivent, et vous, non. »
Et donc ?
Ben, si un auteur a écrit ça après les événements, en prétendant que c'était une prédiction ancienne, alors tout son argumentaire contre les idoles est basé sur un mensonge volontaire. Un mensonge super cynique.
Ah ouais? C'est pas bête du tout.
La capacité prédictive, c'est pas juste un détail décoratif du texte. C'est la clé de voûte intellectuelle de la démonstration de la souveraineté de ce créateur. Si c'est écrit après coup, tout le texte s'effondre sur lui-même.
C'est un argument structurel imparable, je dois avouer. D'accord, donc l'argumentaire du texte établit un créateur maître du temps et de l'histoire. Très bien.
Jusque-là, on est bon.
Mais ça nous ramène à un problème technique majeur sur le terrain. Le texte décrit son propre peuple, les exilés, comme étant obstinément aveugles et sourds.
C'est vrai, les termes sont durs.
Alors, comment un créateur, même tout-puissant, peut-il restaurer une relation avec un partenaire qui refuse catégoriquement de voir et d'entendre? C'est là qu'entre en scène ce que l'on pourrait appeler le mystère des deux serviteurs.
Ah, c'est un concept vraiment fascinant, ça. Le docteur Oswalt donne souvent un petit exercice de lecture à ses étudiants pour leur faire réaliser cette dynamique.
Qu'est-ce qu'il leur fait faire?
Il leur demande de prêter attention au mot « serviteur » dans cette section du livre. Dans les chapitres 41 à 48, ce terme désigne presque systématiquement la nation entière.
La nation d'Israël.
Exactement. Mais c'est une nation hyper passive. L'accent est toujours mis sur ce que cette nation reçoit, de la protection, des promesses, un soutien face aux ennemis.
D'accord, ils sont juste assis là à recevoir.
Voilà.
Mais soudain, il y a un basculement sémantique total. Dans la section suivante, les chapitres 49 à 55, le mot « serviteur » change complètement de nature.
Totalement, oui.
Il désigne plus du tout une nation passive, mais un individu bien spécifique doté d'une mission colossale. Et la transition s'amorce au chapitre 42. Ce chapitre décrit un serviteur d'une douceur inouïe.
Et à cette phrase magnifique qui dit qu'il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas la mèche qui faiblit.
C'est ça. Donc ce n'est clairement pas un chef de guerre sanguinaire venu tout casser avec une armée, on est d'accord. Sa mission, c'est de ratifier une nouvelle alliance et d'apporter quelque chose au monde entier, un concept qu'on appelle le Mishpat.
Ah, le Mishpat! Ce mot hébreu, c'est vraiment le cœur nucléaire de cette promesse. Les traductions modernes utilisent souvent le mot « justice ».
Justice, ok, ça paraît simple.
Le problème, c'est que c'est une traduction beaucoup trop étriquée pour notre esprit contemporain. Quand on entend « justice », on pense immédiatement à des tribunaux.
Ouais, aux juges, aux avocats, tout ça.
Voilà, à l'équité juridique, au fait de punir les coupables et de dédommager financièrement les victimes. Et bien sûr, le Mishpat inclut cette notion d'équilibre des comptes et de rétribution.
Mais ce n'est pas que ça.
Non, ça va infiniment plus loin. Le Mishpat, c'est l'ordre divin originel pour la vie elle-même. C'est la restauration totale de ce qui a été corrompu ou brisé, afin que la vie puisse de nouveau s'épanouir pleinement.
Alors au final, qu'est-ce que tout ça signifie en vrai?
Pour bien visualiser l'abîme qui sépare notre justice moderne du Mishpat antique, j'ai une image.
Vas-y, je t'écoute.
Imaginons une vieille maison en ruine avec une énorme canalisation qui a explosé et qui inonde tout. Rétablir la simple équité juridique, c'est comme faire venir un plombier.
Ok.
Il répare le tuyau qui fuit, il facture honnêtement son travail, sans arnaque. C'est juste, c'est équitable. La fuite est stoppée. Mais la maison est dans un sale état.
Exactement. La maison est toujours inhabitable et pourrie par l'humidité. Apporter le Mishpat, ce serait réparer le tuyau, oui. Mais ensuite assécher les murs, reconstruire la charpente, refaire l'isolation.
Ah ouais, le grand chantier.
Repeindre les pièces et même allumer un bon feu dans la cheminée pour que cette ruine redevienne un véritable foyer, chaud et accueillant pour une famille. Le Mishpat, c'est la reconstruction de l'ordre idéal.
C'est une métaphore parfaite, franchement. Et ça explique toute la beauté de la structure logique déployée par Ésaïe.
Comment ça ?
Bah, si c'est ce Dieu souverain qui a lui-même initié l'exil de son peuple pour le raffiner, ça signifie que Babylone n'a pas gagné par sa propre supériorité militaire.
Ah, on en revient à ça.
Pour les en sortir et instaurer ce fameux Mishpat.
Et ça a un impact énorme dans le texte, hein ?
Un impact monstrueux. La révélation de ce nouveau serviteur porteur de Mishpat déclenche une réaction exubérante. Une immense chanson de joie éclate. Et le détail frappant, c'est que cette joie ne résonne pas seulement à Jérusalem.
Ailleurs aussi.
Le texte mentionne les côtes lointaines, les déserts, les habitants de Silla. C'est une célébration à l'échelle de la planète entière.
D'accord. Donc, l'univers entier est invité à chanter de joie grâce au travail de ce serviteur mystérieux.
C'est ça.
Mais ça nous ramène à la réalité de notre peuple, toujours aveugle et sourd. Si c'est pas eux qui font le travail de libération, s'ils sont carrément hors jeu pour instaurer le Mishpat, à quoi ils servent ?
Excellente question !
Quelle est leur mission ?
Le texte répond sans détour. Ils doivent devenir des témoins de l'entité qui s'appelle le « Je suis ».
Absolument. Le nom même de « Je suis » illustre le fossé radical entre la condition humaine et celle du Créateur. Nous sommes fondamentalement des êtres de dépendance.
C'est-à-dire ?
Le docteur Oswald partageait dans ses notes une réflexion personnelle très poignante à ce sujet, à la suite d'une grave maladie. Il disait que, quand notre biologie nous lâche, on réalise soudainement notre extrême vulnérabilité.
On n'est pas grand-chose, quoi. Ouais. On dépend de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture et, à notre naissance, de l'attention constante de nos parents pour simplement survivre. Nous ne générons pas notre propre existence.
C'est vrai.
Face à cette fragilité, le « je suis » représente l'indépendance absolue, une entité qui puise son existence en elle-même, qui ne dépend de rien pour être.
Waouh ! Et c'est là qu'il faut complètement redéfinir le mot « témoin ». Parce que souvent, on a cette image très agressive du témoin spirituel, tu vois ?
Ah oui, le gars dans la rue avec son mégaphone.
Voilà. La personne qui descend dans la rue, attrape les passants par la manche et leur hurle des versets à la figure pour les convaincre.
Oui, c'est pas très engageant.
Mais l'analyse d'Oswald va bien plus en profondeur. Être témoin, c'est pas faire un discours. C'est devenir soi-même une preuve vivante, une incarnation du changement.
Ah, ça change tout.
Il y a une anecdote saisissante dans la source concernant une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette tribu était historiquement super redoutée, connue pour sa violence extrême.
D'accord.
Puis elle a subi une transformation spirituelle intérieure si radicale qu'elle est devenue une communauté profondément pacifique, respectée par tous ses anciens ennemis.
C'est impressionnant.
Ils n'ont pas eu besoin d'imprimer des brochures pour faire du prosélytisme, tu vois. Leur existence transformée était le témoignage incontestable qu'une autre force était à l'œuvre.
Eh bien, ça soulève une question super importante, en fait. Comment cette force, ce créateur, opère-t-il dans l'histoire et comment les humains réagissent-ils à ses méthodes ?
Vaste sujet.
Oui. Et le texte aborde ça à travers ce qu'on pourrait nommer le paradoxe de l'Exode.
Le paradoxe de l'Exode.
D'un côté, Dieu dit au peuple exilé « Souvenez-vous de l'Exode ». Autrement dit, rappelez-vous mon caractère, ma capacité historique à vous libérer de l'esclavage en Égypte.
Ok, donc un rappel historique classique.
Mais dans la phrase qui suit presque immédiatement, il ordonne « Ne pensez plus aux événements du passé, je vais faire une chose nouvelle. »
Ah, c'est contradictoire.
Il indique clairement qu'il ne va pas faire un copier-coller de ses anciens miracles. Il ne va pas cacher un nouveau bébé dans un panier sur les rives de l'Euphrate, quoi. Cette fois-ci, il va utiliser l'empereur de Perse, Cyrus, un homme qui n'a rien à voir avec la religion d'Israël.
Il sort vraiment des sentiers battus.
Les notes du docteur Oswald résument cette dynamique par une phrase brillante. Dieu est toujours cohérent dans son caractère, mais il n'est jamais prévisible dans ses méthodes.
Et ça, mon Dieu, la nature humaine le déteste profondément. L'imprévisibilité, c'est vraiment notre cauchemar absolu.
On aime bien contrôler.
L'ego humain veut désespérément que l'univers, ou le divin, fonctionne comme un algorithme informatique. Si j'appuie sur la touche A, genre ma prière ou mon rituel, la machine doit me délivrer le résultat B, le miracle ou la bénédiction.
C'est très transactionnel, comme les idoles.
C'est ça. La source pointe d'ailleurs avec une certaine ironie cette tendance humaine à vouloir enfermer le divan dans des règles religieuses super strictes. L'exemple cité me fait bien rire.
Lequel ?
On s'imagine parfois qu'une véritable expérience spirituelle ne peut être validée que si elle a lieu à la toute fin d'un service religieux, exactement après que l'assemblée a chanté 27 couplets du cantique « Tel que je suis ».
27 couplets, rien que ça ?
Et que la personne s'est avancée vers l'autel en suivant un protocole émotionnel, bien précis, millimétré.
C'est une satire super juste de nos comportements. D'ailleurs, il y a un détail linguistique fascinant dans les notes, issues du monde anglo-saxon, qui montre à quel point cette envie de contrôle est ténace à travers les siècles.
Ah bon ? Ouais, c'est quoi ?
Oswald prend l'exemple de la très célèbre traduction anglaise de la Bible, la version King James, parue en 1611.
D'accord.
Dans cette version, un verset traduisait l'action divine en utilisant le mot « let », ce qui, en anglais moderne, a donné l'impression que Dieu demandait « Je vais agir, qui va me laisser faire ?»
Ah, comme s'il demandait la permission.
Exactement. Des générations entières ont construit des sermons sur l'idée qu'il fallait donner la permission au Créateur d'intervenir. Sauf qu'en 1611, le mot « let », il signifiait l'exact opposé.
C'est-à-dire ?
Agirai et qui pourra m'en empêcher.
Oh, ça n'a rien à voir.
Ça détruit complètement l'idée d'un divin qui attend patiemment notre petite autorisation.
C'est incroyable de voir comment un simple glissement de langage peut conforter notre besoin de contrôle maladif. Et cette obsession du contrôle, elle se manifeste de la manière la plus toxique dans le concept du rituel vidé de son sens.
Oui, le formalisme religieux.
Le texte d'Ésaïe critique avec une dureté extrême les sacrifices pratiqués par le peuple avant l'exil. Les gens multipliaient les offrandes, ils égorgeaient des animaux à la chaîne, avec une mentalité purement marchande.
Genre, regarde, j'ai sacrifié 3 beaux moutons, j'ai coché la case du rituel, maintenant l'univers me doit la prospérité.
C'est exactement ça. Mais pendant ce temps, leur vie quotidienne était remplie d'injustice sociale et de mépris total pour les autres.
Bah, c'est la définition classique d'une religion magique et transactionnelle.
Ouais.
Qu'on sacrifie des animaux dans l'Antiquité, ou qu'on applique nos propres rituels de développement personnel moderne pour attirer les ondes positives, franchement, le piège psychologique est identique.
Ah, la fameuse loi de l'attraction.
On essaye de manipuler les forces supérieures. Mais l'argumentaire du texte rejette violemment cette logique. Il affirme avec force que la grâce précède toujours l'obéissance.
C'est un point fondamental.
Le texte souligne que Dieu choisit de pardonner et de restaurer, pas en échange d'une montagne de rituels parfaits, mais, je cite, « pour l'amour de lui-même ». L'obéissance véritable, le changement de comportement, ça doit jamais être un outil de chantage.
Ce n'est qu'une réponse de gratitude organique face à une grâce qui a déjà été donnée gratuitement au final.
C'est tout à fait ça.
C'est un changement de paradigme vertigineux si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui à partir des notes du Dr Oswald.
On a vu pas mal de choses.
On a déconstruit l'idée tenace que l'épreuve et l'exil sont des punitions définitives pour y voir un outil de raffinement, parfois aussi brûlant qu'un charbon ardent sur les lèvres.
Aïe !
On a assisté à un procès cosmique où un créateur prouve sa maîtrise du temps face au cycle stérile de la pensée païenne. On a découvert l'ampleur du Mishpat qui se contente pas de juger, mais qui vise à rebâtir la maison en ruine de la condition humaine.
Un très beau résumé. Et on a surtout compris que face à ce projet de restauration à l'échelle cosmique, bah, la réponse attendue, c'est pas de tenter de manipuler l'univers avec des algorithmes religieux.
Ah ça non.
L'invitation, c'est vraiment de devenir des preuves incarnées qu'une transformation par la grâce est possible. D'être des témoins d'un créateur constant dans son amour, mais totalement insaisissable dans ses méthodes.
Et ce qui nous amène à une ultime réflexion. Une idée qui risque de sérieusement bousculer nos schémas mentaux habituels.
Dis-moi.
Le texte historique, comme on l'a longuement évoqué, insiste lourdement sur l'outil choisi pour orchestrer la libération et le retour de l'exil, le fameux roi Cyrus.
Précisément, l'ultime libérateur de cette époque, celui par qui le Mishpat a commencé à se concrétiser historiquement, c'était un monarque perse. Un empereur totalement païen qui ne connaissait même pas le nom du dieu d'Israël.
C'est dingue quand on y pense.
Il n'appartenait à aucune des institutions religieuses légitimes ou reconnues par les exilés. Il était complètement en dehors du système.
Eh ben, c'est une donnée historique qui donne profondément à réfléchir pour clore cette analyse.
C'est clair.
Si la force qui cherche à restaurer le monde et à instaurer l'ordre juste du Mishpat opère de manière si imprévisible, en utilisant les éléments les plus inattendus de l'échiquier politique ou social, on est en droit de se poser une question sur notre époque actuelle.
Une grande question, oui.
Est-il possible que des mouvements ou des figures contemporaines que l'on perçoit actuellement comme complètement extérieures, profanes ou même séculières, puissent être à leur insu les instruments d'une restauration à grande échelle?
Ah, ça donne le vertige de penser ça.
Se pourrait-il que nos cadres d'analyse super rigides nous empêchent de réaliser que ce qui ressemble à un bout de bois mort n'est pas mort du tout, mais qu'il est en train d'être taillé pour soutenir la charpente d'une maison toute neuve?
C'est une perspective qui invite vraiment à regarder le monde et tous ses bouleversements avec une humilité totalement renouvelée.
Une excellente façon de conclure cette plongée exigeante mais passionnante dans ces sources antiques. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. Restez toujours curieux et on se retrouve très vite pour décortiquer d'autres concepts fascinants.